Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Métropolez-vous, l'émission que nous dédions chaque semaine à l'actualité de Toulouse Métropole. Aujourd'hui, nous allons la consacrer à un sujet qui nous concerne et nous préoccupe tous, surtout lorsque l'été approche. Je veux parler du niveau et de la qualité de l'eau de la Garonne. Depuis des années maintenant, le fleuve qui traverse la métropole toulousaine fait l'objet de toutes les attentions et de toutes les inquiétudes pendant la période estivale. Mais il faut bien être conscient que son débit à ce moment de l'année est conditionné par ce qui se passe à l'automne, en hiver et au début du printemps qui le précède. La pluviométrie et les chutes de neige dans les Pyrénées jouent alors un grand rôle pour recharger les nappes phréatiques, remplir les retenues et générer des réserves d'eau en vue de l'été. Cela étant, nous savons aussi qu'en raison du réchauffement climatique, des réflexions sont en cours pour trouver des solutions face aux problèmes que posent les sécheresses, voire les canicules de plus en plus longues et récurrentes depuis quelques années. Nous allons faire un état des lieux et présenter les perspectives qui s'offrent à nous sur toutes ces questions avec l'invité de ce numéro. Et mon invité est certainement la personne la mieux placée, la mieux informée pour faire cet état des lieux. Je reçois aujourd'hui Élodie Galco, directrice générale de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Bonjour madame et merci d'avoir accepté mon invitation, d'autant plus que c'est la première fois que vous venez dans nos studios.
Bonjour monsieur, mais je suis ravie effectivement de venir ici à Radio Présence.
Je pense que tout le monde, ou presque, a entendu parler des agences de l'eau, mais il y a sans doute besoin de préciser pas mal de choses les concernant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont le statut, le rôle, les missions et le fonctionnement de l'agence de l'eau Adour-Garonne ?
Alors l'agence de l'eau Adour-Garonne, c'est un établissement public de l'État. Il y a 6 agences de l'eau sur le territoire métropolitain qui couvrent l'ensemble du territoire et on fonctionne par bassin hydrographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce ne sont pas les frontières administratives qui nous délimitent, mais c'est la goutte d'eau. C'est le chemin de l'eau qui fait nos frontières. Et donc, on fonctionne par les bassins versants des principaux fleuves français. Et pour Adour-Garonne, on parle du bassin versant de la Garonne, donc avec la Dordogne comme affluent, du bassin versant de la Charente et du bassin versant de l'Adour.
Donc c'est un immense territoire en fait. Vous avez expliqué comment ça fonctionne, en tout cas pour délimiter le périmètre. Ce périmètre est géré par la délégation du bassin Garonne amont, nous concernant, à Toulouse. Qu'est-ce que ça englobe en plus de la Garonne ? Les affluents dont vous avez parlé, ce sont lesquels ?
Oui, effectivement, on parle des affluents de l'Aveyron, du Tarn, on parle aussi du Lot. Et donc de toutes les rivières ensuite des Pyrénées qui viennent se jeter
aussi,
exactement, qui viennent se jeter dans la Garonne.
Voilà, c'est vraiment la Garonne, ses affluents, ses sous-affluents. Qui sont les partenaires de l'agence de l'eau et notamment quelles sont vos relations avec les collectivités qui sont sur cet immense territoire que vous venez de décrire ?
Peut-être déjà vous dire aussi un peu nos missions. On en a 3 principales. La première, c'est la connaissance et la planification. C'est de savoir où on en est en termes d'état des eaux sur notre territoire et vers où on veut aller. Donc c'est la planification, la stratégie. La deuxième mission, c'est une mission qui est moins sympathique, qui est de collecter les redevances. Donc dès qu'on a une facture d'eau, on a une redevance qui revient à l'agence de l'eau. Et la troisième mission, elle est beaucoup plus sympathique, c'est d'accorder des subventions à des projets qui vont améliorer la qualité de nos eaux, la qualité, la disponibilité de nos eaux pour toutes nos activités.
Alors ce sont des projets qui peuvent émaner d'associations par exemple ?
Qui peuvent émaner d'associations mais aussi de collectivités locales. Donc on a des liens très étroits avec toutes les collectivités locales du territoire. Ça peut également émaner du monde économique, les industriels et aussi les agriculteurs.
Donc les collectivités, c'est la région Occitanie et pas seulement
Nouvelle-Aquitaine.
Mais
pas seulement, on travaille avec la Nouvelle-Aquitaine, on travaille avec tous les départements, on signe des contrats avec l'ensemble des départements du territoire. On travaille avec évidemment toutes les collectivités, par exemple ici à Toulouse, on travaille de façon très étroite avec la métropole.
Avec Toulouse Métropole, il y a un comité de bassin aussi. Qu'est-ce que c'est le comité de bassin ? Quelles sont les relations que vous avez avec lui ?
Alors le comité de bassin, c'est le Parlement de l'eau. C'est ce comité de bassin qui va justement décider de la stratégie qu'on se donne sur le territoire. Donc vers où on veut aller tous les 6 ans, on refait ce qu'on appelle le SDAGE, hein, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est la stratégie du comité de bassin pour notre territoire. Le deuxième rôle de notre comité de bassin, c'est de justement nous fixer nos redevances. Et c'est-à-dire en fait le budget de l'agence, donc les moyens qu'on se donne pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la stratégie. Et le comité de bassin, donc c'est 135 personnes qui représentent l'ensemble des composantes de notre territoire. Donc on a les élus locaux qui sont représentés, on a les entreprises qui sont représentées, le tissu associatif est représenté et également l'État. Donc on a vraiment toutes les composantes de la société et surtout du territoire qui sont présentes pour décider de ce qu'on veut faire de ce territoire demain en matière d'eau.
Qui préside le comité de bassin aujourd'hui ?
Actuellement, c'est Alain Rousset, donc le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et auparavant, c'était Martin Malvy, qui était alors président de la région Midi-Pyrénées.
Midi-Pyrénées. Qui est devenu Occitanie depuis. Est-ce que vous avez, et ça je pense connaître la réponse, des relations aussi étroites avec une entreprise comme EDF pour les lacs de barrage ?
Évidemment, on a des relations étroites avec EDF parce qu'EDF a effectivement des concessions et donc dans les Pyrénées, des concessions hydroélectriques et donc des ressources en eau qui peuvent être nécessaires, certes pour l'électricité, mais aussi pour ce qu'on appelle le soutien d'étiage. Concrètement, le soutien d'étiage, c'est mettre de l'eau dans la Garonne, en l'occurrence ici à Toulouse, quand l'été, les écoulements naturels ne sont plus suffisants pour que le débit de la Garonne soit au bon niveau.
Et Dieu sait que c'est important depuis quelques années, ça.
Tout à fait.
Alors, je suppose que vous avez aussi des relations avec des institutions environnementales, je mets ça entre guillemets, mais comme les fédérations de pêche, l'Office français de la biodiversité, peut-être aussi certaines associations de protection de la nature.
Alors, ils sont effectivement tous dans notre comité de bassin. L'Office français de la biodiversité dans le collège État, parce que c'est un établissement public également. Et les associations, tant les fédérations de pêche et les associations de protection de la nature, sont également représentées dans notre comité de bassin et on travaille régulièrement avec eux, avec les associations de pêche en particulier. Pour vous donner un exemple, on travaille sur la collecte de données.
Alors, on va en parler là, de ce côté protection des milieux aquatiques que vous avez aussi dans vos missions. Une question, vous avez parlé des redevances que perçoivent les agences de l'eau. Est-ce que vous êtes aussi habilité à donner des amendes lorsqu'il y a des contrevenants, des pollueurs ?
Alors, on n'a pas de rôle de police de l'eau. La police de l'eau, c'est les services de l'État, c'est l'OFB, c'est pas l'agence. En revanche, évidemment, dès lors qu'on perçoit des redevances, si un redevable ne se prête pas au jeu, si je peux dire, ne paye pas dans les temps ou fait des fausses déclarations, bah évidemment, il y a des sanctions.
Donc là, ce sont des pénalités plus que des amendes.
Exactement.
Alors, je vais vous poser une question toute bête. D'où vient l'eau du robinet que l'on boit à Toulouse et dans les communes de la métropole toulousaine ? On a beau en parler assez souvent dans cette émission, je ne suis pas certain que tout le monde le sache.
Ben je peux vous confirmer, j'étais encore il y a quelques semaines avec une classe d'étudiants en journalisme de Toulouse et je leur ai posé cette question et aucun ne m'a dit que l'eau venait de la Garonne. Parce qu'effectivement, l'eau à Toulouse vient principalement de la Garonne, en très grande majorité. Alors c'est Garonne et Ariège pour être très précis et effectivement, peu de gens le savent.
Ouais. Une partie tout de même dans la métropole toulousaine, me semble-t-il, vient de la Montagne Noire, c'est-à-dire que les communes qui sont à l'est de Toulouse, je crois qu'il y en a une partie qui sont ravitaillées par l'eau qui vient de la Montagne Noire.
Il y a une connexion effectivement avec le syndicat d'eau de la Montagne Noire, mais ce n'est pas la majorité.
Oui, c'est très minoritaire, ouais. Mais ça existe, je le précise, pour ceux qui sont sur les communes en question. Alors s'agissant de la protection des milieux aquatiques que nous évoquions il y a quelques minutes, là, quelles actions mène l'agence de l'eau dans ce domaine ?
Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par protection des milieux aquatiques ? Nous, notre mission, c'est de veiller à ce qu'il y ait de l'eau disponible en quantité, en qualité, pour tous nos usages. Quels sont nos usages ? Les usages économiques, on en a besoin pour l'industrie, on en a besoin pour l'agriculture. Les usages d'agrément, il faut qu'il y ait de l'eau dans les rivières pour qu'on puisse aller pêcher le poisson dans nos rivières, mais aussi les activités sportives, le canoë-kayak, etc. Et évidemment, le premier des usages, c'est l'eau potable. L'enjeu, c'est celui-là. On l'a oublié parce que jusqu'à présent, ça fait de nombreuses années qu'on a de l'eau disponible en quantité, en qualité et qu'on se pose pas trop de questions. Avec le changement climatique, c'est en train de changer. Donc, il faut rappeler que cette eau, elle est absolument indispensable pour tous ces usages. Et donc, pour que cette eau soit disponible en quantité et en qualité, on mène énormément d'actions pour aller dans ce sens-là. Alors ça peut être accompagner une collectivité sur un investissement dans une station d'épuration pour que quand elle rejette de l'eau dans les milieux, elle soit la plus propre possible. Ça peut être d'accompagner un ouvrage qui barre la Garonne, par exemple, pour créer des passes à poissons ou en tout cas des équipements qui vont permettre une circulation.
D'assurer la continuité écologique.
Voilà ce qu'on appelle la continuité écologique, c'est-à-dire que les sédiments puissent descendre et que les poissons puissent remonter, si je schématise. Et ça peut être aussi des actions qui vont être peut-être plus diffuses, comme de la sensibilisation. Je prends l'exemple à Toulouse Métropole. Certains des auditeurs ont peut-être pu bénéficier des kits qui ont été distribués par la métropole pour faire des économies d'eau. Ben, ça aussi, ça fait partie des actions qu'on peut accompagner financièrement.
Donc vous pouvez soutenir effectivement financièrement certains projets, comme vous le disiez, dont des projets comme celui-ci. On va parler de la pollution maintenant. Quelles sont les principales sources de pollution des cours d'eau et les principaux pollueurs, entre guillemets, dans notre région? Allez, bon, je pense à la Garonne, mais aussi à tous ces affluents, bien sûr.
Alors, il y a deux types de pollution. Il y a ce qu'on appelle les pollutions diffuses et les pollutions ponctuelles. Les pollutions ponctuelles, c'est le plus simple. C'est les pollutions qui viennent de l'industrie et des usages domestiques de l'eau, donc des stations d'épuration des villes. C'est le plus simple parce que comme c'est ponctuel, ben on fait un gros investissement à un endroit et on traite les rejets en fait, et donc on arrive vraiment bien à diminuer les quantités de polluants. Le sujet des pollutions diffuses, il est beaucoup plus complexe, c'est l'agriculture principalement. C'est évidemment aussi tous nos usages domestiques quand on a un jardin, mais principalement c'est l'agriculture. Et donc là, c'est à la fois les pesticides, mais aussi les engrais qui, s'ils ne sont pas utilisés par la plante, bah, finissent dans l'eau.
Les métaux lourds, on en parle souvent parce que ça, en termes de pollution non visible, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. On en est où aujourd'hui, par exemple, dans la traversée de Toulouse? Qu'est-ce qu'on constate?
Les métaux lourds, ça fait partie plutôt des pollutions ponctuelles. On a su les traiter, après on a à gérer le stock en fait.
Oui. Et puis alors, il y en a une autre dont on entend parler depuis quelques années, c'est la pollution médicamenteuse.
Oui.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue plutôt à la hausse ou c'est quelque chose qu'on arrive à mieux contrôler qu'avant? Peut-être parce qu'on en est plus conscient qu'on l'était.
C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a énormément augmenté notre spectre de détection de produits. Et donc, oui, on a un sujet de traces de médicaments dans les eaux qu'on, pas dire qu'on découvre, mais qu'on recherche davantage. Et c'est une vraie difficulté, oui.
La qualité de l'eau de la Garonne, comment elle évolue depuis quelques années? Est-ce que ça va plutôt en s'améliorant? Est-ce que ça stagne ou est-ce que ça se détériore?
Alors d'abord, on a la chance à Toulouse d'avoir une métropole qui investit beaucoup sur ces sujets. Notamment, il y a encore des investissements là, qui sont engagés sur la station d'épuration de Ginestou pour anticiper les normes à venir sur les traitements. Donc il y a des efforts qui sont considérables et qui ont beaucoup d'effets. Ils ont aussi des investissements majeurs sur le traitement de l'eau potable, pour que l'eau potable au robinet de tous les habitants de la métropole soit également de qualité. Et ils ont également investi sur un dispositif qui est assez remarquable, qui est ce qu'on appelle l'hypervision, et qui permet de détecter les fuites, détecter les difficultés, les risques de rupture d'approvisionnement, et qui assure une grande réactivité et une grande qualité de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces investissements qui ont été faits sur ces usines d'eau potable font que la qualité de l'eau distribuée à Toulouse est bonne. Effectivement, la qualité de l'eau, l'état de la Garonne n'est pas bon, hein, comme d'ailleurs tous les fleuves qui traversent des zones urbaines, il faut se le dire. Mais effectivement, ça n'a pas d'incidence sur la qualité de l'eau distribuée.
Est-ce que ça en a une sur la faune aquatique, par contre? Qu'est-ce que vous remontent les fédérations de pêche?
Ben évidemment, ça a une incidence sur la faune aquatique. On a, la faune aquatique, il faut comprendre que ce sont les sentinelles de la qualité de l'eau. Moi, je dis toujours ça aux pêcheurs. On a dans la population des gens qui vont avoir du mal à comprendre qu'on cherche à défendre la présence de telle ou telle espèce de poisson dans telle ou telle rivière. Mais ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que si ce poisson disparaît, bah demain, ce sont les usages humains qui vont aussi disparaître. Donc ça c'est un vrai enjeu.
Oui,
voilà.
Ce sont des alerteurs, effectivement, des indicateurs de la qualité de l'eau. Vous parlez de la qualité de l'eau de la Garonne à Toulouse. Qu'est-ce qu'il en est entre l'amont et l'aval? Est-ce qu'on constate qu'il y a vraiment une grosse différence ou est-ce qu'on peut dire que l'eau qui est rejetée à la sortie de Toulouse n'est pas pire que celle qui arrive à l'amont de Toulouse?
On ne peut pas dire ça parce que en fait, sur une métropole, il y a évidemment des choses qui sont maîtrisées. C'est tout ce qui se passe dans les réseaux. Et donc ça, c'est maîtrisé. Et puis, il y a tout ce qui se passe à la surface et on n'empêchera jamais l'eau de pluie de ruisseler vers la Garonne directement. Et donc, emmenant avec elle tout ce qu'elle a trouvé sur son passage, dans la rue, etc. Et là, ça dépend de nous tous, hein, de faire attention à tout ce qu'on va laisser sur le sol. On le voit sur certaines plaques d'égout, la Garonne commence ici ou l'océan commence ici. Ben oui, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le chemin de la goutte d'eau et de tout ce qu'elle va emmener. Et donc, il faut être attentif à ce qu'on va laisser derrière nous. Voilà.
Vous évoquiez tout à l'heure l'évolution des normes concernant l'eau. Alors, il y a des normes aussi qui sont sans doute au niveau européen.
Ouais.
Comment ça évolue, ça ? Est-ce que c'est de plus en plus strict ?
Alors, oui et non. En fait, les connaissances augmentent. Donc, quand on connaît mieux les produits, mieux leurs effets, on peut être amené à resserrer les normes. Mais on peut aussi être amené à les desserrer, et c'est arrivé. Parce qu'on se rend compte que finalement, on avait pris une précaution vis-à-vis d'un produit qui nous semblait dangereux et qu'on se rend compte, à force d'études, qu'il n'est pas aussi dangereux qu'on l'avait imaginé et donc on va desserrer la norme. Mais globalement, les connaissances augmentant, on identifie plus de produits dans les prélèvements qu'on peut faire et donc ça resserre les normes.
Globalement, ça serait de plus en plus strict.
Exactement.
C'est en tout cas ce qu'on peut constater. Vous avez dit que vous organisez des actions de sensibilisation. Vous les faites auprès de qui ? Peut-être beaucoup auprès des jeunes, des scolaires ?
On les fait auprès des jeunes, on les fait auprès des moins jeunes.
Par des campagnes d'affichage,
par ma présence aussi, par exemple, aujourd'hui. Mais oui, si je peux vous citer ce qu'on fait avec les jeunes, on a mis en place un programme qui s'appelle « Adopte ma rivière ». Et qui consiste à emmener une classe autour d'un cours d'eau pour qu'ils comprennent tous les enjeux d'un cours d'eau, voir comment est-ce qu'on détermine le bon état ou pas d'un cours d'eau, qu'est-ce qu'on peut y trouver, quels sont tous ces signes sur le fond de la rivière notamment, qui peuvent nous donner des indications sur la qualité de ce cours d'eau. Enfin, on essaie de les sensibiliser. On a aussi emmené un groupe d'étudiants cet été sur la Dordogne. On leur a fait descendre la Dordogne depuis la source jusqu'à
la confluence avec la Garonne,
exactement. Et on leur a montré tout au long de ce parcours quels étaient tous les usages de l'eau, depuis la production d'hydroélectricité jusqu'à l'utilisation pour l'industrie, en passant par l'agriculture, les usages domestiques, la façon dont l'eau était traitée pour l'eau potable et retraitée après utilisation humaine. Voilà.
Une question toute simple, si nous constatons une pollution d'un cours d'eau, ce qui nous semble être une pollution, qui faut-il appeler en priorité ?
Le plus simple, c'est d'en référer à sa commune.
Au maire, donc.
Voilà, au maire. Le maire saura rediriger, le cas échéant, vers les bonnes personnes.
Donc, le mieux, c'est d'alerter la municipalité.
Exactement.
En tout cas, si ce n'est le maire. Bon, une petite commune, le maire, mais dans une grande commune comme à Toulouse, il y a Allo Toulouse, je sais, par exemple, c'est plutôt ça ce qu'il
Exactement.
Faut faire. Voilà, en tout cas, pas appeler l'agence de l'eau.
Non, on n'est pas forcément les plus compétents. Après, on...
Si on vous appelle, vous relayez.
On ne sera pas indifférent.
Alors, on va parler du niveau de la Garonne maintenant et de ses affluents d'ailleurs, que ce soit en moyenne sur l'année ou pendant l'été. Quelle est la situation depuis quelques années et quelles sont les perspectives à moyen terme ? Alors, quand je dis moyen terme, on va dire 2050.
Alors, à 2050, on nous annonce une diminution assez drastique de la disponibilité de l'eau sur notre territoire. À l'échelle de l'ensemble du bassin Adour-Garonne, c'est une division par deux de la disponibilité de la ressource. C'est-à-dire que là où on utilisait 2 litres, on n'aura plus qu'un litre. Évidemment, ça, c'est si on ne fait rien. C'est le scénario on reste comme ça, on maintient nos usages. Donc, justement, avec notre comité de bassin, on a construit un plan d'action qui consiste à utiliser tous les leviers dont on dispose pour être prêt en 2050, dans 25 ans, à faire face. Ces leviers, ils vont de la sobriété, donc c'est faire attention à nos usages au quotidien, mais aussi dans nos usages professionnels, évidemment, jusqu'à des solutions de stockage qui peuvent être des nouvelles solutions de stockage ou de l'optimisation des stockages existants. Parce qu'il y a aussi beaucoup de leviers à aller chercher sur l'optimisation de ce qu'on stocke et ce qu'on déstocke, surtout.
Nos usages, c'est consommer moins, tout simplement.
Comment
on consomme moins ?
Au lieu de prendre un bain, vous prenez une douche, c'est le truc classique.
Ouais.
C'est les fameux mousseurs qu'on peut mettre sur les robinets pour réduire la pression et avoir l'impression d'utiliser autant d'eau, mais en fait, on en utilise beaucoup, beaucoup moins. C'est toutes ces petites solutions aussi qui consistent à stocker de l'eau l'hiver avec un récupérateur d'eau pluviale pour l'utiliser ensuite.
Parce que de plus en plus de gens font, effectivement.
Exactement.
Pour le jardin.
C'est toutes ces petites solutions, voilà, vraiment, qui fonctionnent très, très bien et qui ont un impact, hein, parce que la consommation d'eau baisse depuis plusieurs années. La consommation d'eau domestique baisse.
Des particuliers, donc.
Voilà. Ouais. Donc, ça marche.
Il y a une prise de conscience.
Il y a une vraie prise de conscience. Surtout depuis 2022, d'ailleurs. Après, il y a aussi toutes ces actions qu'on fait avec le monde économique. Alors, évidemment, en premier lieu, le monde agricole. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Première chose, c'est tout ce qu'on appelle zone humide. Alors, qu'est-ce que c'est une zone humide? C'est une éponge qui va stocker l'eau l'hiver et qui va la restituer au milieu l'été. Donc, au milieu, ça peut être pour les cultures. Ça peut être aussi pour une rivière qui coule à côté. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout lié avec l'agriculture. Pour le coup, c'est l'île du Ramy à Toulouse. Elle a été désimperméabilisée. Vous vous souvenez, c'était ce parc des expos avant. La désimperméabilisation de cette zone va faire qu'elle va stocker l'eau l'hiver et l'été, elle va la restituer à la Garonne quand la Garonne en aura besoin.
Et là, c'est tout l'intérêt de cette fameuse loi ZAN, zéro artificialisation nette. Il faut moins artificialiser, en tout cas ne plus continuer à le faire.
Exactement. Et ensuite, avec les agriculteurs ou avec les industriels, on travaille sur, alors les industriels beaucoup, le recyclage d'eau pour fonctionner en boucle fermée pour ne plus prélever ou beaucoup moins prélever dans les rivières. Exemple d'une industrie en Ariège qui a réduit de 90% ses prélèvements en une dizaine d'années. Et avec les agriculteurs, c'est d'imaginer, c'est beaucoup plus compliqué, hein, c'est imaginer des nouvelles filières qui consomment moins d'eau, mais qui est aussi des débouchés.
Alors, vous parlez de filière agricole, de culture. Donc,
oui, de culture.
De changer de modèle un peu en termes de qu'est-ce qu'on va cultiver demain comme type de... Alors, ça ne sera plus du maïs, il faut que ce soit autre chose.
Mais qui nous concerne aussi, parce que derrière, il faut quand même qu'on le mange.
Voilà, il faut qu'eux, ils aient des débouchés, il faut qu'ils puissent le vendre, et puis il faut que ça puisse nourrir la population.
Voilà. Et donc, nous, il faut qu'on le mange. Donc, il faut qu'on change aussi nos régimes alimentaires pour tenir compte de la consommation en eau des produits qui sont cultivés sur nos territoires.
Alors, il y a quelques années, il y avait eu, chacun sait, des affaires parfois tragiques, malheureusement, liées à la construction de retenues d'eau, de barrages. Où on en est là-dessus? Est-ce qu'il est question de faire de nouvelles retenues pour stocker l'eau l'hiver? Et sous quelle forme, dans ce cas-là? Vers quel modèle on se dirige?
Alors, on a quelques projets sur le territoire, mais l'étape essentielle avant de se lancer dans un projet comme ça, c'est le travail de concertation qui est réalisé actuellement, hein, bien en amont, qui vise d'abord à savoir ce qu'on peut évidemment construire en tenant compte du changement climatique. Parce que construire une retenue, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'elle se remplisse. Et ça, c'est important de tenir compte des scénarios climatiques, parce qu'il faut dimensionner les ouvrages au bon niveau par rapport à un climat qui va changer et qui peut conduire à ce qu'à des endroits, ce ne soit pas si évident que ça, que ça se remplisse. Donc oui, construire des ouvrages, pas n'importe où, et de pas n'importe quelle capacité, parce qu'un ouvrage vide, ça sert à rien. Voilà, oui. Ça coûte très cher et ça sert à rien. Et ensuite, c'est évidemment travailler sur tous les leviers en même temps. Oui, stocker l'eau, mais aussi réduire nos consommations d'eau. Regarder comment est-ce qu'on peut mieux utiliser l'eau qui tombe juste là où elle tombe, en fait. Donc, c'est ces fameuses pratiques agricoles qui peuvent changer aussi, moins retourner les sols, avoir des haies aussi, ça retient l'eau davantage.
Oui.
Enfin, c'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, font qu'on va être en mesure de faire face à ce défi qu'on a devant nous de 1 litre sur 2 en moins en 2050.
Alors ça, ce sont des choix politiques, mais bon, vous le disiez vous-même, il faut qu'il y ait des concertations avant. Donc, il faut arriver à convaincre les gens que les solutions qu'on propose sont les bonnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vous parliez de prise de conscience des particuliers, on consomme moins. Est-ce que les gens sont prêts à changer de modèle de ce point de vue? Parce que c'est aussi des enjeux parfois paysagers, hein, tout simplement, comme c'est le cas pour les éoliennes. Mmh. Et puis, ces enjeux de dire, on va peut-être être obligé de changer notre alimentation.
Alors, en fait, c'est vraiment ça le grand sujet, hein. En Charente, on a une ferme expérimentale du CNRS qui a essayé de pousser un certain nombre de nouvelles pratiques et qui bute en fait sur cette difficulté d'enclencher des changements, non pas sur les fermes, mais aussi dans les pratiques alimentaires du territoire. Et le premier défi qu'on a devant nous, c'est aussi de construire ces nouveaux itinéraires en fait. C'est quoi ces nouvelles filières qu'on peut imaginer demain sur notre territoire pour pouvoir être plus résilient face au changement climatique? Et c'est une fois qu'on saura vers quoi on veut aller qu'on pourra engager une transformation plus vers le citoyen en fait. Aujourd'hui, on en est encore à se poser la question de vers quoi on veut aller.
On va terminer pour reparler de la Garonne. On voit chaque été, on a l'impression que le niveau de la Garonne est de plus en plus bas et que ça dure de plus en plus longtemps, jusqu'au début de l'automne, parfois même au-delà. Est-ce que d'ici 2050, comme j'ai pu l'entendre dire, on pourrait se retrouver avec un étiage de la Garonne qui soit encore bien inférieur à celui qu'on connaît aujourd'hui?
Alors c'est amusant que vous me posiez cette question parce qu'en fait la Garonne est très très largement soutenue par les lacs qu'on a dans les Pyrénées.
Et en Ariège notamment.
Voilà, cet été, c'était la moitié de l'eau de la Garonne qui venait des Pyrénées. Et c'est ça qui fait qu'on ne traverse pas la Garonne à pied à Toulouse. Parce que sinon, évidemment, ça serait une situation beaucoup plus dramatique. Cet été, c'était la troisième année la plus chaude des dernières années. Donc c'était sévère. Néanmoins, il y avait de l'eau dans la Garonne grâce au lac des Pyrénées.
C'est eux qui soutiennent le débit l'été. Ce qui veut dire, et je reviens à mon introduction, qu'on a besoin de pluie et de neige en automne-hiver. Si on n'a pas ça, les lacs ne se remplissent pas.
Alors, la neige, elle stocke elle-même.
Alors, elle coule à partir du mois de juin ou au mois de mai.
Ou bien avant, en fait.
Oui,
même,
non,
parce qu'en fait,
même, tôt, oui.
Avant, elle arrêtait de couler en juillet.
Oui, mi-juillet.
Voilà, et maintenant, c'est en juin qu'elle arrête de couler, la neige. Donc, ça veut dire que c'est les lacs des Pyrénées qui prennent le relais à partir de juin, parce que la neige n'est plus là. Donc, ces lacs ne sont pas infinis. Hein, donc, évidemment, on a un vrai enjeu. C'est pour ça qu'on doit renforcer notre capacité de stockage. Et c'est aussi pour ça qu'on doit optimiser cette capacité de stockage pour pouvoir mieux utiliser l'eau juste au bon moment.
Nous allons devoir conclure cette émission à laquelle je remercie Élodie Galco d'avoir participé. Merci d'avoir fait pour nous cet état des lieux de la qualité de l'eau de la Garonne dans sa traversée de la métropole toulousaine mais aussi ailleurs. Et merci d'avoir présenté les perspectives à moyen et long terme concernant l'évolution du niveau du fleuve et de ses étiages l'été. On sait qu'il y a pas mal d'inquiétudes à ce sujet, mais bon, on a pu voir qu'il y avait des réflexions et des actions en cours. Pour avoir tout le détail des missions et des actions de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, j'invite nos auditeurs à se connecter au site www.eau-grand-sud-ouest.com. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Merci de votre fidélité à l'écoute de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.